Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo spécial Les Ailes Collées, le téléfilm événement de France 2, diffusé mercredi soir à partir de 21h05. À cette occasion, le réalisateur Thierry Benisti, le co-auteur Alexis Baillet, les comédiens Roby Skinazi, Alexis Rosenstiel et Max Liber seront nos invités exceptionnels pour en parler. Le capitaine Marlowe revient, c'est donc vendredi à partir de 21h05 également sur France 2. Corinne Maziraud, son héroïne, sera en ligne avec nous pour en parler. Et puis intérimaire, c'est la nouvelle fiction, création originale Teva, qui vient de débarquer samedi soir pour une soirée événement samedi dernier. Et bien dès ce soir, 20h50, vous allez pouvoir découvrir en tout cas cette série quotidienne qui va vous être proposée. On va beaucoup rire et on va en parler avec sa créatrice et interprète Joséphine Dry, qui sera avec nous. Et puis, je sais, vous l'adorez en tant que chanteuse, vous l'adorez en tant que comédienne, mais vous allez l'aimer aussi en tant que réalisatrice. Laurie sera notre invitée. Elle a été justement en charge de la mise en scène du nouveau mystère, et c'est les mystères des grottes du Régulus en Charente-Maritime qu'elle a mis en boîte. Elle viendra également nous parler de sa tournée événement qui s'apprête à démarrer cet automne partout en France. Et puis Michael Gallo, il a fait sensation dans The Voice, c'est le finaliste. On revient avec lui sur sa finale avec Patricia Cass. Ça sera en fin d'émission. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore une fois aujourd'hui. Ensuite, on écoute la télé. On démarre tout de suite avec Laurie.
L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, notre invité aujourd'hui, c'est Laurie. C'est Laure aussi, sur un tournage. Laure Pester, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va commencer à parler avec toi de la réalisation, puisque c'est une nouvelle corde à ton arc depuis maintenant. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, mais depuis plusieurs années, tu réalises notamment sur Demain nous appartient, où tu as laissé Lucie Salducci un peu au placard pour l'instant. Pour passer derrière la caméra, tu kiffes vraiment ce moment?
Ouais, j'aime beaucoup. Après, tu sais, moi, la mise en scène, j'ai toujours aimé ça. C'est moi qui ai fait les mises en scène de tous mes spectacles depuis le début, mes tout premiers concerts, 2002, 2004, 2006, 2008. Donc, faire de la mise en scène, j'aime ça. Après, sur scène, c'est un peu différent qu'à l'écran, mais en tout cas, ça reste de la mise en scène. Donc, oui, c'est vrai que là, je m'éclate. D'ailleurs, t'as pu le voir derrière.
Justement, quand tu jouais et que tu voyais les gens derrière derrière la caméra, t'avais cette envie déjà ou pas? Où il y a eu un déclic à un moment donné qui a dit « Ah oui, j'ai envie de faire ça ».
C'est arrivé petit à petit. J'avais fait un premier téléfilm, un deuxième téléfilm, un troisième téléfilm. Et c'est vrai que assez souvent, je me retrouvais derrière le combo. Quand j'avais par exemple des séquences où j'étais pas, au lieu d'aller me reposer dans ma loge ou à la loge HMC, je restais à côté du réalisateur ou de la réalisatrice et des techniciens et tout ça, et je leur posais mais 15 000 questions, tu vois. Je disais, ah, et ça sert à quoi? Ah, et ça, et pourquoi tu fais comme ci? Et pourquoi tu fais comme ça? Et j'adorais. Et voilà, je passais plus de temps derrière la caméra déjà que devant.
Et puis il y a eu effectivement cette rencontre avec Sylvette Friedman sur Les Mystères de la Duchesse, où tu jouais avec Jeremy Banster. Et puis du coup, bah, Les Mystères des Grottes de Régulus, bah, c'est toi qui es aux manettes. Ouais. C'est génial. C'est ton premier long métrage.
Ouais, c'est ça, mon premier. Avec Sylvette, on s'est rencontrés donc il y a 3 ans sur Les Mystères de la Duchesse. Et en fait, on a eu un gros coup de cœur. Gros coup de cœur. On s'est très bien entendu. On est resté en contact après. On déjeunait souvent ensemble. On se donnait des nouvelles. Et puis je la tenais informée de mes projets, de mes envies. Et là, l'année dernière, elle m'a appelée l'été dernier en me disant voilà, je suis en train de préparer les prochains mystères. J'ai pensé à toi pour réaliser. Et là, je fais allô, j'ai bien entendu. T'es sûre de toi là? Et elle m'a dit ouais, j'en suis sûre. Et donc c'est voilà. C'est voilà comment je me suis retrouvée là.
Comment tu t'es préparée justement à ce challenge? Comme une championne?
Je me suis bien préparée, j'ai bien bossé en amont. Après, avec Sylvette, j'étais bien accompagnée. J'apprends énormément. Sylvette, c'est vraiment une personne, elle m'inspire tellement. J'apprends même encore tous les jours à ses côtés. Et c'est vraiment génial d'avoir quelqu'un comme ça pour démarrer et pour avancer.
T'as des mentors, t'as des modèles en matière de réalisateur. On parlait en antenne juste avant de Julien Seri avec qui on était il y a quelques jours sur Tropique Criminel, mais j'imagine que t'as plein de modèles un peu.
Oui, j'ai plein de modèles. Après, c'est vrai que quelqu'un que je connais et avec qui j'ai pu bosser, c'est Julien. C'est vrai que Julien Seri, c'est mon mentor. Dès que j'ai des questions, dès que j'ai des doutes, dès que j'ai des projets, je fais donne-moi des conseils, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire. Et voilà, et Julien, il a une très très bonne énergie, c'est un très bon réel, c'est quelqu'un que j'adore. C'est un exemple.
Long métrage cinéma, t'aimerais aussi réaliser?
Bah oui, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Après, c'est vrai que j'ai plus mes entrées à la télé. Mais cinéma, oui, pourquoi pas. Après, ça dépend. Ça dépend du projet. Pourquoi pas. Ouais.
Pour finir de parler de Laure, comédienne, est-ce que Lucy Salducci est définitivement en mer? Est-ce qu'elle s'est jetée du haut de cette falaise définitivement? Ou est-ce qu'un jour elle pourrait réapparaître? En tout cas, est-ce que t'as fermé la porte à la production ou pas vraiment? Un retour peut être un jour surprenant.
Oui, un retour pourrait arriver. Elle a sauté de la falaise, on n'a pas retrouvé son corps, on a juste retrouvé son manteau. Ça laisse les portes ouvertes. Voilà, on sait pas, on sait jamais ce qui peut arriver.
En tout cas, c'était une sacrée fin.
Ouais, ça c'est sûr. Alors,
même si maintenant t'es passée à la réalisation, c'est vrai que quand t'es comédienne sur une série quotidienne comme Demain nous appartient, ça t'a appris en tant que comédienne beaucoup de choses. C'est une véritable école, les quotidiennes. Faut tourner vite, on apprend énormément.
Oui, on apprend énormément. Pour moi, Demain nous appartient, ça a été vraiment une très très bonne école. J'avais déjà fait pas mal de téléfilms, mais une quotidienne, c'est vrai que c'est au niveau du rythme, au niveau du boulot. C'était 30 pages de texte à apprendre tous les soirs. Enfin, vraiment, c'est quelque chose d'intense. Et en tant que comédienne et même en tant que réale, c'est une très très bonne école.
C'est génial. On va parler avec Laurie, la chanteuse, maintenant. Ah bah oui, parce que tu t'apprêtes à faire ton retour sur scène à l'automne. Et je crois que tu t'attendais pas à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ça a été mis en vente dans les heures qui ont suivi, tout était plein. Du coup, les minutes, et du coup, tu es parti sur une tournée des Zéniths qui passera au mois de mai 2026, le 1er mai à l'Arkea Arena de Bordeaux. Ça passera au Zénith de Nantes le 2 mai, ça passera à Toulouse le 3 mai, et puis 2 dates au Zénith de Paris le 23 et 24 mai. Et je suis sûr que c'est pas fini.
Ben écoute, en tout cas, je sais pas. Peut-être qu'il y aura d'autres dates encore, mais c'est vrai que non, je m'y attendais pas du tout. On avait mis ces dates là pour fin 2025. Ça s'est rempli en quelques minutes. J'ai appelé mon tourneur, je fais mais je crois qu'il y a un bug. Il m'a fait non, en fait tout est complet.
T'as halluciné?
Ah oui, j'ai halluciné. Je m'attendais pas du tout. En fait, moi, en plus, tu sais, il m'avait dit bon allez, je mets 3 Trianon en option. Je lui fais c'est déjà bien, tu vois, on a 1 an pour remplir entre la promo qu'on va faire, les réseaux sociaux. Je pense qu'on peut remplir 1 Trianon, mais 3, t'y vas fort quand même, tu vois. Et puis au final, tu vois, il a fallu qu'on remette des Zéniths qui sont quasiment pleins. Enfin, il y a des Zéniths qui sont déjà blindés. Et je m'attendais pas du tout à ça, alors que c'est dans plus d'1 an, tu vois.
T'es halluciné de voir l'amour que te portent les gens toujours, qui t'ont pas oublié après plus de 20 ans de carrière?
Ouais. Ouais, je savais que les gens m'avaient pas vraiment oublié parce que c'est souvent quand je les croise dans la rue, j'ai toujours des petits mots sympas. Voilà, les gens sont vraiment très 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 cool, mais de là à aller venir me voir en concert, bon bah là je m'y attendais pas.
T'avais pas conscience qu'à peine plus de 40 ans t'étais déjà la Madeleine de Proust de beaucoup de monde.
Non, c'est ça.
Mais c'est ça qui est fou.
Ouais, c'est ça. Bah évidemment, ouais, c'est ça. Non, mais t'as trouvé le mot, c'est ça. C'est ouais, quand je croise des gens dans la rue qui me disent ah là là, vous étiez mon premier concert ou ah là là, c'était le premier CD que j'ai demandé à ma mère de m'acheter ou mon père. Enfin voilà,
c'est émouvant.
Ouais, c'est émouvant. C'est émouvant.
Comment tu vas te préparer à ce marathon?
Je commence déjà. Je commence déjà des séances de sport en visio avec ma coach là. Et puis dès que le tournage est fini, voilà, sport intensif. Ça va être reprise des cours de chant, cours de danse, voilà, à fond.
Je sais que t'es très méticuleuse et très soigneuse justement. La peur peut-être de décevoir le public, mais en tout cas, tu mets un point d'orgue là-dessus. Est-ce que le public ressorte avec la banane et qu'il n'y ait pas un faux pas quoi?
Exactement.
Je te connais bien maintenant.
Ah ouais, c'est ça, depuis toutes ces années. Ouais, c'est ça, exactement.
En tout cas, t'as envie de continuer après la scène un petit peu ou est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres dates qui s'ouvrent par la suite?
Je sais pas. Je sais pas, on verra après si on fait des festivals, on verra s'il y a pas un tournage qui arrive. Tu sais, moi je me laisse porter par la vie.
Bon, et on te retrouvera de toute façon aux manettes des Mystères de Grotte de Régulus pour la saison 2025-2026. Ça sera sur France 3 un samedi soir et ça sera le 10e opus de la collection Les Mystères 2, produit par Sylvette Friedman. Merci beaucoup Laurie. Juste avant de se quitter, je vais te laisser faire un choix de choisir une de tes chansons maintenant que tu as envie qu'on diffuse pour faire plaisir à nos auditeurs.
Waouh! Écoute, Ta Meilleure Amie.
Allez. Ben on y va. C'est celle, je crois, où tout a débuté, quasiment.
Oh ouais, c'est ça.
Il me semble. Allez, c'est parti. Laurie, c'est pour vous. C'est maintenant.
Lis en moi comme dans un livre ouvert.
Allez, ne bougez pas. Dans un instant, l'équipe du téléfilm Les Ailes Collées, Joséphine Drey, Corinne Maziro, Mickaël Gallo sont nos invités. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
En vrai, une femme, elle sait construire une bâtisse de ses mains. Donner encore même quand elle n'a plus rien. Nourrir son enfant même si elle a faim. En vrai, une femme, elle sait se battre contre les éléments. Défier les normes et les lois d'un autre temps. Elle sait fermer les yeux, faire semblant quand on lui ment. En vrai, une femme, elle sait faire pousser sur des terres arides les fleurs d'un espoir qu'on croit impossible. Écrire un futur même à l'encre vide. En vrai, une femme, elle sait porter le monde à bout de bras. Comme un enfant que l'on berce tout bas et qu'on relève à ses tout premiers pas. Souviens-toi, on leur voit qui résonne dans les rues, dans les cours d'école. Pour celles qui sombrent, celles qui décollent, celles qui nous portent et nous consolent. Pour nos rêves, pour nos lionnes, pour nos petites sœurs. Que c'est le même ensemble, le cœur d'une femme, le cœur d'un homme. Après une femme, elle donne sans retenue ni demi-mesure. Elle sait si bien cacher tout ce qu'elle endure. Même quand elle doute, c'est elle qui nous rassure. En vrai, une femme, même dans le pire, elle trouve ce qu'il y a de bon. Qu'elle fasse des poèmes ou la révolution, elle est la promesse d'un nouvel horizon. Dans le fond, pour leur voix qui résonne dans les rues, dans les cours d'école. Pour celles qui sombrent, celles qui décollent, celles qui nous portent et nous consolent. Pour nos rêves, pour nos lions, pour nos petites sœurs. Le cœur d'une femme, le cœur d'un homme. Une femme. Une femme.
Chut, on écoute la télé. C'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à intérimaire. On va faire un jeu de mots.
Apostrophe
R avec sa créatrice, comédienne incroyable, Joséphine Drey, qui fait son retour dans Chut, on écoute la télé pour nos plus grands plaisirs. Bonjour Joséphine.
Bonjour.
Alors, je suis très content de t'avoir parce qu'on t'a eu pour Toulouse-Lautrec, qu'on t'a eu dernièrement pour Avec ou sans enfants. Et là, c'est un projet qui te tient énormément à cœur puisque c'est un projet où tu investis de A à Z. Oui,
exactement. Alors, pour pas faire plus, c'est en 360 degrés puisque j'ai créé la série, je l'ai écrite. Alors, il y a certains auteurs qui se sont ajoutés pour une partie des épisodes, mais j'en ai écrit, j'ai participé à l'écriture des 50. J'ai fait le casting de ma série, dont je suis très très fière. J'ai fait le stylisme de la série. Enfin, je veux dire, j'ai validé toutes les tenues. J'ai pas signé la réalisation factuellement. C'est un binôme qui s'appelle Alain et Lucas qui ont énormément de talent. En revanche, on s'était mis d'accord de manière, parce que comme je suis dans tous les plans de la série, je suis l'interprète principal de la série, je pouvais pas diriger, je pouvais pas être derrière la caméra, mais eux me dirigeaient énormément et moi je dirigeais beaucoup les comédiens sur le plateau. J'ai aussi fait une forme de direction d'acteur, c'était entendu avec les réals, donc j'ai aussi participé indirectement à la réalisation.
Alors, on s'inscrit complètement avec intérimaire dans la ligne directrice de Teva, des séries comme Vous les femmes, la série de Marie Papillon. Il y a vraiment cette ligne directrice commune à toutes ces séries qui sont devenues cultes finalement de Teva.
Je me souhaite que ça soit que ma série ait le destin de Vous les femmes, parce que c'est ce que je trouve bien avec ces formats de 2 minutes, 2 minutes 30, c'est des formats courts, mais c'est en même temps un personnage qu'on aime retrouver sur un. Justement, c'est pas un digeste, et en même temps c'est vraiment rythmé, c'est censé être drôle, mais mon personnage s'appelle Camille. et aussi très touchant. Il y a un truc très dans l'empathie, on l'a dit plusieurs fois, malgré, c'est quand même écrit un format un peu sketch, hein, finalement, on se dit c'est un sketch, mais il y a quand même vraiment un désir de fiction. Alors peut-être que je réponds à la place de tes questions, mais un truc qui me tient beaucoup à cœur sur ce format, c'est que ça se veut format sketch, mais c'est l'anti, par exemple, c'est l'anti-caméra café ou l'anti-scène de ménage, c'est-à-dire que c'est en format naturaliste, c'est-à-dire c'est plein de décors différents dans un même épisode, en lumière naturelle, en souhait, en désir de mettre en avant le côté fiction, 100% fiction, et pas du tout sketch. C'est pas deux projos, un plan fixe, jamais. Il y a aucun épisode qui est comme ça. Il y a des intentions de réalisation qui sont très fortes. Il y a parfois des plans séquences, il y a des choses avec des univers très marqués visuellement, très différents d'un épisode à l'autre. Tout ça a été très très pensé en amont. Et ça, je trouve que c'est une grande qualité et rare sur les programmes courts.
Programme ambitieux, comme tu le disais. Intérimaire, c'est quoi? Alors, parle-nous de Camille un peu.
Alors voilà, Camille, simple, elle est partie pour une vie où elle va se marier. Elle est censée avoir tout réglé dans sa vie et son mari, tout va bien. Sauf qu'en fait, elle se fait quitter la veille de son mariage et elle se retrouve sans ressources parce qu'elle n'a, elle, à ce moment-là, pas de métier particulier. Elle est aspirante comédienne, mais ça marchait pas forcément. Et du jour au lendemain, elle se retrouve à devoir emménager seule en catastrophe la veille de son mariage. Donc toute sa vie s'écroule et par-dessus le marché, sa mère, qui n'a pas assez cotisé à la retraite, qui se retrouve sans retraite, se retrouve obligée d'emménager chez sa fille, ma maman, qui est jouée par Isabelle Nanty. Je vous avais prévenu, j'avais un beau casting.
Ah oui, Cathy Tuche quand même.
Voilà, et donc, tous les épisodes se terminent par une séquence chez moi, avec ma mère. Donc en fait, Isabelle est dans tous les épisodes. Et donc, elle se retrouve à devoir assumer et en même temps son bout du rouleau personnel et la présence de sa maman. Et donc, elle se retrouve à devoir faire des petits boulots en catastrophe dans l'espoir de trouver un CDI. Et sur 50 épisodes, sans spoiler, ça se passe jamais comme elle veut dans chaque épisode et donc dans chaque métier. Et donc elle ne fait qu'enchaîner les petits boulots dans l'espoir de se poser.
Et du coup, il y a des guests quasiment dans chaque épisode.
Ah bah c'est ça, c'est aussi ça. Alors j'ai une bande, la particularité de la série, c'est qu'il y a 50 épisodes et j'ai créé une bande de comédiens, comme une troupe, qui joue chacun des personnages différents dans chaque épisode.
Alors, donc, tu peux nous les citer?
Ma troupe de comédiens dont je suis aussi très fière, parce que c'est des comédiens de grand talent qui sont aussi des amis pour la plupart, il y a Nader Boussandel.
Ah ouais, génial.
Il y a, tu vas dire plein de fois génial, je pense. Il y a Claire Tran, il y a Alexandra Sismondi, il y a Diana Laszlo, qui sont aussi des auteurs en partie de la série. Il y a Clément Moreau, super comédien je pense qu'on va avoir beaucoup là cette année, qui joue dans notamment La Stagiaire, il fait le fils de Michel Bernier dans La Stagiaire. Il y a Fabien Ducommun, qui est aussi mon meilleur ami et qui était le metteur en scène de mon premier spectacle. Il y a Noémie Chiche-Portiche, génie de la comédie, qui a fait plusieurs programmes aussi pour M6. Et après, dans les guests, j'ai évidemment Sabrina Ouazani. J'ai
tes copines de planqueur.
Bien sûr. C'est la seule que j'ai mise de planqueur exprès pour pas non plus faire trop de
planqueur.
Et voilà. Il y a Elodie Frégé, qui est une de mes meilleures amies, qui joue son propre rôle. Il y a aussi Chimène Badi, qui joue son propre rôle. Il y a aussi Zindine Soalem, qui joue mon oncle. Il y a Foued Amara, qui joue mon ex, donc qui me plaque la veille du mariage. Le fil rouge de la série, c'est que je rêve de le retrouver et de me remettre avec lui, donc c'est assez rigolo les running gags sur ça. Et j'ai aussi, en guest, ici, il y a Vincent Dezania et Romain Lancry aussi.
Oh là 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 là, du lourd, du lourd, du lourd.
Si, je suis hyper fière de mon casting.
Écoute, on a hâte de découvrir ça. En tout cas, Intérimaire, ça débarque sur Teva. Est-ce que il y a eu des fois où des séries sont devenues, des fois sont parties sur grand écran, sur des formats plus longs? Est-ce que c'est toi dans tes espérances, peut-être qu'Intérimaire, un jour, se termine peut-être par un film ou aille sur plusieurs saisons, ou se développe en format?
Alors déjà, plusieurs saisons, c'est tout à fait possible et on en parle déjà informellement. Par contre, la bande, rester avec cette troupe, parce qu'on s'est tellement tous retrouvés et entendus, il y a une sorte de symbiose vraiment incroyable qui s'est déroulée pendant le tournage avec cette bande, et les retrouver sur d'autres formats, eux, refavoriser des trucs avec eux, oui. Pas forcément Intérimaire en long métrage ou Intérimaire en série, mais en revanche, cette troupe-là, dans d'autres formats que je vais écrire et tourner, et peut-être j'espère même pour le groupe M6, c'est clairement quelque chose, c'est un souhait qu'on a et qui est très actuel au moment où je te parle, parce que vraiment il s'est passé vraiment quelque chose de magique et on a vraiment envie de continuer à travailler ensemble. Mais je pense pas que ce soit un format qui puisse, enfin Intérimaire, le pitch se développer sur un truc très long, en revanche se décliner en plusieurs saisons, ça c'est tout à fait possible, parce que c'est infini le nombre de métiers, on en avait déjà le double. Donc
t'aimerais réaliser quelques épisodes peut-être s'il y a une saison 2?
Oui, là vraiment pour le coup oui, parce que ça y est, je me suis rodée, j'ai pris énormément de plaisir à faire cet exercice.
Il faut prendre ses marques quand même avant, déjà aussi avant de faire les deux.
Et l'économie, faut pas non plus se mentir, hein. L'économie d'un programme court pour Teva, ça reste aussi un budget très limité, donc un manque de temps à chaque instant, donc je pouvais pas prendre le risque d'être derrière et devant, je peux pas couper, je suis dans chaque plan et aller voir derrière pour dire plus à gauche, plus à droite, repasse-moi la prise. Donc voilà, mais sur une mécanique bien huilée avec une troupe que je connais déjà, etc., je pense que je pourrais me permettre d'en réaliser plusieurs, ouais.
Génial. Écoute, en tout cas, on va découvrir cette première saison. Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver pour ce deuxième semestre 2025 dans lesquelles on va te voir cet été à la rentrée?
Si tout va bien, il y aura forcément donc le film de Roman Lancré et Vladimir Rodionov qui va changer de nom. Alors, je peux pas encore dire du coup le titre définitif, avec aussi Julien Pestel avec qui j'ai partagé l'affiche plusieurs fois, qui va normalement sortir en deuxième partie de 2025. Et alors là, pareil, je peux pas non plus dire spoiler. Je ne suis pas médium, mais j'aimerais bien que, si tout va bien, l'unitaire que j'ai fait pour France TV, pour France 2, qui s'appelle Haute Saison, avec Vinnie Dargaud, est censé devenir une série, 6 fois 52 minutes. Et si jamais c'est le cas, ce sera diffusé en deuxième partie 2025 aussi.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Joséphine, d'avoir été avec nous. On va se quitter avec un petit extrait, justement, d'Intérimaire. Ça débarque cette semaine sur Téva, on ne le rate pas. Merci à toi.
Merci à toi.
À bientôt.
Vous cherchez une bonne intérimaire? Rendez-vous avec Joséphine Drey. Maîtrise des langues.
Vous connaissez bien les spécialités portugaises, c'est ça?
Claro, molto bene.
Force de proposition.
Qui c'est qui veut un joli maquillage de princesse?
Moi, je veux le make-up de Kim Kardashian à la dernière Fashion Week.
Esprit d'équipe.
Bonjour, c'est Aperalo, toujours là, mais pas...
J'ai mes 30 ans, personne n'est venu.
Et sens du timing.
Attendez, je vais 2 secondes aux toilettes, je reviens.
Et parti chien.
Intérimaire, du lundi au vendredi à 20h50 sur Téva.
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine est consacré au film Les Ailes Collées que vous découvrirez mercredi soir à 21h05 sur France 2. Un film tout en sensibilité de Thierry Binisti, comme il sait si bien les faire. Bonjour mon cher Thierry.
Bonjour, bonjour.
Et puis comme on est entre amis aujourd'hui, c'est aussi un ami de l'émission, Roby Skinazi, qui joue le rôle de Paul, qui est avec nous. Bonjour mon cher Roby.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux pour ce très beau film qui a fait une sensation quand il a été projeté au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle, où on a eu la chance de le voir un petit peu avant tout le monde. C'est une histoire pleine de vérité à la fois, qui explore les thèmes de l'adolescence, de la découverte de l'amour, du harcèlement. Il y a plein de thèmes différents qui passent dans ce film, Thierry.
Effectivement, il y a beaucoup de thèmes qui, pour un film d'époque, puisque le film se passe dans les années 80 et dans les années 2000, on s'aperçoit qu'il reste vraiment d'actualité.
Qu'est-ce qui t'a plu dans le personnage de Paul, Roby?
Tout son parcours, le traumatisme qu'il garde en lui pendant toutes ces années et qui ressort à l'âge adulte. Et je trouve que c'est un personnage riche, en tout cas en émotions, à jouer. Et c'est pas donné tous les jours de pouvoir jouer des personnages aussi complexes, avec des histoires aussi marquantes. Mais surtout, c'était dans le scénario. Ce qui m'a plu, c'était ces trois thèmes abordés, l'histoire d'amour, l'harcèlement... Et l'homophobie, qui sont quand même des thèmes d'actualité aujourd'hui, l'amour évidemment toujours, mais on parle beaucoup de l'homophobie, du harcèlement en ce moment à l'école, et je trouvais que c'était un film qui sortait au bon moment.
Alors, tout démarre par un mariage avec Pauline Bression, ton personnage se marie avec celui de Pauline, et donc elle va vouloir te faire une surprise, c'est qu'elle a vu une photo, celle de Joseph, où vous étiez tous les deux en photo, et elle va avoir l'idée de te faire la surprise en fait, de l'inviter au mariage, et quand tu vas le découvrir évidemment, tout va remonter un peu à la surface, et on va repartir dans le passé 15 ans plus tôt, pour découvrir en fait votre histoire à tous les deux. Oui. C'est bien résumé ?
Très bien résumé.
On n'a rien spoilé là pour l'instant.
Non, on n'a pas spoilé, mais c'est vrai que le film démarre comme ça, sur cette émotion de retrouver un ami de jeunesse. Voilà.
Roby.
Pour le personnage, à ce moment-là du film, au début, ça démarre par un choc émotionnel tellement fort que je crois que d'ailleurs, jusqu'à la fin du film, il est en état de choc. C'est ce que j'ai essayé en tout cas de faire transparaître à l'écran, c'est cet état de choc constant dont il n'arrive pas à se défaire. Comme si il fallait qu'il aille au bout de cette histoire avant de pouvoir en commencer une autre ou de revivre tout simplement, comme s'il avait été en apnée pendant toutes ces années.
Oui, c'est ça, j'allais dire, on a l'impression que Paul était vraiment pendant 15 ans était en apnée, que tout est remonté à la surface mais d'un coup.
Oui, effectivement, et c'est ça que j'ai eu du mal à gérer dans le jeu, c'est que je ne savais pas vraiment comment l'aborder, et je me suis dit que quand je traverse, moi en tout cas personnellement, quand je traverse des états de choc, ça m'arrive, hein, je suis assez sensible là-dessus, j'ai tendance à beaucoup pleurer, et en fait je n'arrivais pas à penser à une autre façon de le jouer. Quand, alors je sais qu'on n'a pas besoin de pleurer pour faire pleurer le spectateur, mais là en l'occurrence je trouvais ça pas juste de pas être dans un état, en tout cas pas de larmes forcément, mais dans un état fort émotionnel où le souffle est un peu coupé.
Par rapport à la comédie, Thierry, là on est dans une histoire pleine de sensibilité. Est-ce que c'est plus facile peut-être à mettre en scène des émotions comme celle-ci que de faire de la comédie aujourd'hui à la télévision? C'est que c'est difficile. Est-ce que c'était plus facile ou pas vraiment? Tellement il y a d'émotions à faire passer. Parce qu'il y a énormément d'émotions qui passent dans ce film, dans tous les sens du terme.
Oui, il y a énormément d'émotions, mais chaque film est difficile à faire, que ce soit l'émotion, que ce soit le rire, et chaque fois le défi, il est d'en arriver à faire naître ce sentiment chez le spectateur. Mais normalement, on a des très très bons complices qui sont d'abord le scénario et ensuite les comédiens.
Alors, le scénario, parlons-en justement, puisqu'il a été écrit par Alexis Baillet et Alain Lérac. Donc, on peut quand même citer effectivement ces scénaristes. Thierry, comment tu t'es débrouillé aussi pour osciller entre les époques comme ça? Comment s'adapte à ça? Est-ce que tu as tourné d'abord déjà, par exemple, toutes les années 80-90 ou plus après les années 2000 à part, ou est-ce que tu as tout un peu cross-bordé?
Alors, on connaît les difficultés d'un tournage et les impératifs plutôt d'un tournage, qui fait que effectivement, ça ne se tourne jamais dans l'ordre, ça ne se tourne jamais dans la chronologie idéale. Donc effectivement, tout était mélangé, donc on passait sans arrêt d'une période à l'autre. Et je me souviens, par exemple, pour des décors qui sont récurrents sur les deux périodes, comme la maison de Paul, il fallait changer les meubles, changer les couleurs de la maison, changer les rideaux, changer plein de choses à chaque fois, et puis revenir le lendemain dans la période. Mais ce que j'ai choisi pour marquer l'époque, c'est que je me suis dit quels étaient les objets emblématiques d'une époque. Et par exemple, pour les années 80, moi je me souviens de l'arrivée du Rubik's Cube, on en avait tous un entre les mains, l'arrivée du Walkman, c'est des choses qui ont, pour moi, je me suis appuyé là-dessus, je voulais pas faire des reconstitutions, bien sûr qu'il y a la R5 qui se balade quelque part, etc., etc., mais l'intérêt pour moi c'était de trouver l'objet emblématique d'une époque à chaque fois.
Alors, on raconte quand même aussi la découverte d'une vie d'adulte et les prémices un peu aussi d'un amour d'adolescent, en fait, hein, dans ce film. Hein, ce qu'on disait, il y a beaucoup de thèmes, il y a l'homophobie, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que tu as l'impression que les mentalités ont évolué avec le temps aujourd'hui?
Alors, il y a un discours qui a véritablement changé aujourd'hui. Il y a une acceptation aussi qui a changé, mais la difficulté pour chaque personne d'être confrontée à ses émotions à cet âge-là, ça ne peut pas changer. Même si on est dans une société qui s'est ouverte, forcément ouverte, n'empêche que ce que l'on ressent de façon intime lorsqu'on est confronté à cette émotion-là, ça reste l'histoire individuelle qui reste la première fois pour chaque personne. En revanche, malgré tout, c'est vrai que le chemin qui a été parcouru existe, mais il y a encore un très très grand chemin à faire.
Roby, quelle a été la scène pour toi la plus touchante, la plus vibrante peut-être, ou que tu appréhendais, ou dans le film pour le coup, pour ton personnage de Paul?
Alors, Thierry a raison, plutôt toutes, mais en fait il y en avait deux en particulier qui se sont déroulées le même jour, le premier jour de tournage, ce vendredi 17 mai, qui, comme on l'a répété déjà, est le premier jour de tournage, ainsi que le premier jour dans le livre, et bien d'autres coïncidences ce même jour-là. Et en fait, c'était la scène des retrouvailles en tête-à-tête quand il va retrouver Joseph dans son atelier et qu'il le plus ou moins confronte à son départ soudain à l'époque qu'il a laissé lui en plan face à ce drame, ce harcèlement scolaire où ils auraient pu finalement être deux à le vivre et donc à se soutenir et où il a fini par être tout seul et d'où ce traumatisme qui a duré tant d'années, et ensuite qui pour moi était pas une difficulté ni un challenge, mais qui était une nouveauté, c'était cette intimité que je devais, que nous devions créer ensemble avec Jérémy qui joue Joseph, et essayer de retranscrire à l'écran cette alchimie qu'on avait quand on était petit, et cette excitation physique de se retrouver, ce toucher corporel, de cette sensualité que peut-être inconsciemment on s'était gardé toutes ces années dans nos têtes, et fantasmé à l'idée de le revivre et qui là reprenait jour.
Vous allez en tout cas nous faire vivre un très joli moment en regardant Les Ailes Collées mercredi. Thierry, Roby, merci d'avoir été avec nous. On va continuer à en parler justement avec le personnage de Joseph et de Paul Jeune ce coup-ci. On va basculer dans les années 80 dans quelques instants, juste après la bande-annonce des Ailes Collées. Merci Thierry, merci Roby.
Merci, merci.
Merci, merci.
Inédit.
Ah chérie, t'es là. J'ai une surprise pour toi.
Je sais pas s'il me reconnaît.
Désolé, je pensais être seule.
Tu danses vachement bien.
Comment oublier son premier amour?
Pourquoi tu souris bêtement?
Celui qui change son destin pour toujours.
Oh putain, c'est des béliers.
Paul Thomas, c'est un PD.
Petite ta fille.
Carlos. J'ai essayé de me convaincre que c'était mieux si je t'oubliais.
Les ailes collées de Thierry Binisti, adapté du roman de Sophie Debert. Mercredi soir à 21h10 sur France 2 et déjà sur la plateforme France.tv.
Allez, c'est la suite de notre spécial Les ailes collées. On a un des deux auteurs qui est justement avec nous, Alexis Baillet. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Et puis on a nos jeunes comédiens qui interprètent justement Joseph et Paul Jeune. On a Alexis Rosenstiel.
Bonjour.
T'as vu ? J'ai bien prononcé, hein. Je me suis entraîné juste avant.
Superbement, ça c'est rare qu'on prononce bien mon nom.
Du premier coup, Max Liber, bonjour Max.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous tous les deux pour parler effectivement de cette histoire très touchante. Et c'est ce que je disais juste avant de lancer la bande-annonce avec Robbie et avec Thierry. On bascule avec vous dans les années 80, puisqu'on raconte une histoire qui se déroule à la fois de nos jours et dans les années 80 aussi. Est-ce que ça crée une difficulté supplémentaire à l'écriture, Alexis, déjà ?
Alors, une difficulté supplémentaire, oui, parce que déjà les dialogues ne sont pas les mêmes, on ne parle pas de la même façon dans les années 2000 que dans les années 80.
Ça qui tu le dis.
Oui, voilà, donc on a voilà, donc déjà il faut moi j'ai regardé beaucoup de films des années 80, c'est une période que j'adore et j'adore écrire des dialogues en tout cas dans le dialecte de ces années-là. Après il y a la difficulté aussi, disons, des mœurs de l'époque en fait qui ne sont pas les mêmes que aujourd'hui ou que dans les années 2000. Donc il faut savoir adapter aussi par rapport à ça, et il faut être conscient de la réalité de l'époque et de ce qu'on peut écrire ou de ce qu'on ne peut pas écrire aussi.
Et alors, ce qui est le plus drôle, c'est que c'est notre jeune génération de comédiens qui est basculée, elle, dans le passé. Alors, ça vous a fait quoi de parler en années 80 tous les deux ?
Bah, c'était un grand plaisir. Moi, j'ai l'impression d'être très nostalgique de cette époque que je n'ai pas connue, puisque je suis né en 2005, donc bien après cela. Mais j'ai toujours été très fan des films des années 70-80, des rockstars, des popstars, de tout ça. C'était un défi parce que comme le rôle de Joseph était assez me ressemblait assez, j'avais des fois envie de sortir des expressions que j'emploie au quotidien, mais je n'avais absolument pas le droit. Donc je me faisais un peu taper les doigts par Thierry et Alexis, voilà. Mais en tout cas, non, c'était extrêmement jouissif, si je peux dire, d'emprunter cette langue qui est pas si loin et en même temps assez loin de nous.
Max ?
Ben moi, je trouve que c'est génial, en fait, parce que c'est vrai que quand on fait un film en tant que comédien, on veut jouer, et là, on joue. On met des habits qui ressemblent pas forcément aux nôtres, des chaussures qui sont pas du tout confortables, ou du moins qui ont pas le même confort. Sauf qu'en fait, tout de suite, ça nous met en jeu. Et outre les habits, les chaussures, la langue, y a les comportements. Ce qu'on a le droit de montrer, ce qu'on a le droit de dire, quelles émotions on a le droit de laisser paraître aussi en tant que jeune dans les années 80, jeune homosexuel en l'occurrence. Et c'est vrai que c'est très intéressant de découvrir ça, c'est une vraie découverte et une recherche. Et on a quand même la chance de travailler avec des gens qui ont vécu les années 80 et donc qui peuvent nous conseiller, nous transmettre quelque part quelque chose. Donc pour moi c'est vraiment un jeu et c'est vraiment très agréable, j'adore changer d'époque et rencontrer, découvrir de nouvelles manières de vivre, de penser, de réagir, de partager ses émotions.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de thèmes abordés. Le thème du harcèlement scolaire, de l'homophobie. Vous êtes à un âge, effectivement, dans le film où vous vous cherchez un petit peu à tout niveau. Et c'est ça qui est intéressant, c'est découvrir toute cette sensibilité à fleur de peau qui vous unit tous les deux et qui va aussi vous séparer par la suite pendant 15 ans avant de vous retrouver au mariage de l'un d'entre vous. Et c'est vrai que ça crée des incompréhensions, ça crée des non-dits. Il y a plein de choses, en fait, hein, qui passent. Hein.
Je pense qu'il y a une intensité qui est différente, mais c'est la même chose. L'homophobie, l'harcèlement, ça existe depuis la naissance de l'école. Et je pense qu'il n'y a rien d'étonnant, si ce n'est que à l'époque, c'était, on va dire que on a l'impression dans ce film-là, et j'imagine que c'était le cas dans les années 80, que il y avait une espèce d'homophobie
omniprésente.
Omniprésente, voilà, je cherchais le mot. Parce qu'en fait, je pense que c'était plus de la bêtise et de l'ignorance. C'est-à-dire que les parents ne savent pas a priori. On peut se dire qu'ils ont jamais rencontré d'homosexuels. Et une fois qu'ils apprennent que leur fils l'est, il y a quelque chose. Ils sont désarçonnés. Et on a la chance à notre époque, qui est pas si loin que ça, que ça soit devenu une totale normalité, on va dire, au grand public. Et ça fait du bien de pouvoir nous raconter cette histoire-là, alors que on peut pas dire un petit garçon et une petite fille, tu n'as pas le droit d'aimer, c'est pas possible, c'est pas une éducation, c'est quelque chose d'absolument inhumain.
Max, comment on pourrait présenter Paul Jeune ?
Je pense que Paul Jeune se sent très seul et très seul à plein de niveaux différents dans la famille, pour commencer. Je pense qu'il aimerait admirer ses parents, mais il n'y arrive pas. Il aimerait admirer son père, il aimerait avoir envie de lui ressembler, Il essaye d'avoir envie de lui ressembler, mais il n'y arrive pas. Je pense qu'il aimerait admirer sa mère, mais elle le déçoit beaucoup, elle lui fait très peur, et il n'arrive pas à résoudre cette situation, la situation de sa mère, qui devient vraiment un sujet bloquant pour lui. Et je pense que dans le milieu scolaire, amical, amoureux, il est très seul, il n'a pas de code. On lui a pas donné de mode d'emploi. Et donc, ces rencontres, elles se font... je dirais à l'improviste, sans savoir comment faire, sans savoir quoi dire, sans savoir où se placer. Et donc c'est vraiment ça, il est en recherche d'une place et dans la famille et dans les relations, qu'il peine vraiment à trouver. Et c'est vrai que il vient de vraiment bouleverser. Et je voulais dire, moi c'est ça qui m'a vraiment intéressé dans ce film, c'est qu'en fait quand on joue quelque chose, quand on va au cinéma, quand on regarde un film à la télé, on a envie de voir des personnages qui sont déplacés, des comédiens qui sont bouleversés par quelque chose, on veut voir des brèches se créer. Et cette relation qui se crée entre le personnage de Paul et Joseph, je pense que c'est une vraie brèche qui s'ouvre dans le personnage de Paul, en tout cas le personnage de Joseph aussi, mais on s'en rend compte plus tard, je pense. Je suis ravi d'avoir eu ça à jouer, parce que ça m'a vraiment permis de découvrir quelque chose, de découvrir un ami, un amoureux, un personnage très fort et très intéressant dans justement cette instabilité que le personnage de Joseph crée chez Paul. Et je pense que vraiment, pour justement vous parler de partager les émotions dans une époque, c'est très, très important justement de voir la sensibilité du personnage et du comédien derrière.
Pour toi ?
Le personnage de Joseph Jeune, moi c'est un personnage que j'ai eu l'impression en le lisant qu'on avait beaucoup de points communs, non seulement cette espèce de ce sentiment de liberté et ce fait qu'il ne se pose pas de questions. On va dire, il arrive dans cette société entièrement homophobe. Et en fait, je disais tout à l'heure que Thierry m'a dit quelque chose pendant le tournage. Il m'a dit, on s'en fiche que Joseph aime les garçons ou les filles. On ne sait pas d'ailleurs s'il aime les filles aussi, mais...
Il se cherche plus qu'autre chose.
Mais voilà, il se pose pas cette question-là. C'est absolument pas un problème pour sa mère. Et cette mentalité, il arrive. C'est donc un nomade. Il vit. C'est un nomade avec sa mère. Il arrive en caravane. Et il vient bouleverser non seulement la vie de Paul, mais aussi ce petit bout de village dans lequel c'est extrêmement tabou. Et lui, il arrive et sans se poser de questions, sans imposer rien à personne, et simplement en essayant de profiter de la vie. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant et intelligemment amené. Et c'est un personnage sur lequel je pense. Beaucoup de gens peuvent prendre exemple.
Exactement. Et le petit mot de la fin pour toi, Alexis ?
Si vous hésitez encore à voir ce film, je pense qu'il vaut le coup simplement pour le slip de bain, qui est un objet qu'on retrouve dans le film et qui est absolument extraordinaire et qui s'est perdu. Voilà, donc n'hésitez pas à le regarder juste pour me voir en slip de bain, c'est absolument... Absolument extraordinaire.
Et le slip des années 80, évidemment. Vous allez voir que ça a bien changé depuis. Les ailes collées. C'est mercredi, c'est à 21h05 sur France 2. On ne le rate pas. Je vais remercier à nouveau Roby Skinazi, Thierry Binisti. Merci Alexis d'être passé également nous voir. Merci Max et merci Alexis et Alexis. On merci a deux Alexis. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de réagir qu'on avait deux Alexis et un Max. Merci à tous les trois en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis ne ratez pas ce téléfilm plein de sensibilité comme Thierry sait si bien les faire. Ça sera donc mercredi sur France 2. Merci à tous.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré Capitaine Marlowe qui fait son retour après vendredi, le premier épisode inédit de cette nouvelle salve. Eh bien, c'est un nouvel épisode vendredi qui vous sera proposé, qui s'appelle L'Ami Français, avec Corinne Maziero, évidemment, toujours aux commandes, qui est avec nous. Bonjour, chère Corinne.
Salut.
Ça va bien ?
Bah, pas pire, et vous ?
Bah oui, moi je suis toujours content quand je vous ai avec nous, parce que je sais qu'on va passer une soirée où on va rigoler vendredi, on va pas se prendre la tête et on va suivre en plus une enquête passionnante. Donc c'est toujours un bon moment qui nous attend.
Bah merci, c'est sympa. Mais je suis peut-être pas que moi qui suis aux commandes, hein, c'est José qui est aux commandes du Marlowe.
Non mais moi, on commande devant la caméra, je voulais dire, évidemment.
Ah oui,
mais,
ah oui.
Mais
oui.
Derrière notre José, bah oui, qui est avec nous lundi dernier pour l'épisode avec Émilie Decken. Juste avant justement de parler de l'épisode de vendredi prochain, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'épisode de vendredi, qui est encore en ligne sur France.tv, puisque c'était le dernier rôle d'Émilie Decken. Et j'aimerais savoir un petit peu justement vos souvenirs de tournage avec elle. Je sais que ça a beaucoup attristé évidemment toute l'équipe et on l'aimait tous beaucoup, Émilie.
Oui, ça a beaucoup attristé parce que perdre quelqu'un de cette qualité, autant c'était une très très grande actrice et puis une super gonzesse. Quand on a su qu'elle était partie, José a demandé une minute de silence sur le plateau. C'était très arrosé, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui était évidemment pas en souffrance morale, mais physiquement, elle, malgré ça, elle était tout le temps très joyeuse, très solaire, très,
elle est lumineuse, sympa, très empathique. Elle est lumineuse dans l'épisode de vendredi, c'est sûr.
Mais elle est exceptionnelle et dans la vie, elle est exactement pareille. C'est-à-dire toujours à demander aux autres comment ils allaient, avec tout le monde, enfin, quelqu'un de, moi, je suis très heureuse d'avoir côtoyé. Et puis, comme actrice, ça, forcément, il n'y a qu'à regarder son CV pour se rendre compte que c'était une des grandes, quoi. Ah, donc, c'était un honneur et un immense plaisir de travailler avec elle et de partager ce moment-là. Ça a été, ouais, pour elle, c'était dingue parce qu'elle était vraiment presque à nous rassurer les uns, les unes et les autres de l'échéance qui s'approchait à grands pas. Jamais elle jouait sur le pathos ou sur
la corde sensible.
Victimisation, au contraire. Mmh. Ouais, non, c'était vraiment, c'était un chouette moment, en fait. On a tous bien rigolé, on a bien dansé, bien chanté, bien joué avec elle. C'était super. C'était une super meuf, vraiment.
Mais en tout cas, c'était un bel épisode. Et c'est vrai qu'elle va beaucoup nous manquer. Ça, c'est sûr, dans tout le paysage audiovisuel, ouais, télévisuel et cinéma. Ça, c'est sûr, ouais, et certain, parce que c'était une des actrices qui, justement, passait aussi bien du côté cinéma, télévision. Elle était vraiment l'actrice sans frontières. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est assez rare pour être souligné. Donc, vraiment,
ouais,
un parcours sans faute pour Émilie. Voilà.
Ouais.
Vendredi, nouvel épisode inédit avec Christopher Bayemi, qui va jouer le rôle d'un ex-président et africain qui est en exil dans un village français et qui s'est noué d'amitié avec un maraîcher qui va être retrouvé mort. Évidemment, le capitaine Marlowe va venir enquêter là-dessus avec la gouaille qu'on lui connaît, évidemment.
Oui, la capitaine, pas le...
Oui, c'est
une
vrai.
Dame, on ne le sait pas, mais c'est une dame.
C'est la capitaine Marlowe.
La capitaine Marlowe. Bah oui, c'est un épisode que moi j'ai bien aimé tourner parce que, mis à part le fait que les guests sont toujours exceptionnels, et ça, c'est grâce au choix de José. Mais parler de ce qu'était la France, et ce qui est toujours la grande patrie de la colonisation et des résultats que ça a eu sur plein de pays. Alors évidemment, c'est en sous-couche dans l'épisode, mais moi, je trouve ça chouette d'en parler parce qu'on n'en parle pas suffisamment.
Oui, il y a plein de sujets évoqués. Ouais, il y a plein de sujets évoqués aussi, absolument. La place de la femme dans la société africaine aussi, à travers le personnage d'Ina Modja. Il y a vraiment plein de sujets qui sont évoqués, un casting de fou. Éric Caravaca, Jonathan Lambert, Bernie Bonvoisin, Jérôme Kircher, Irène Jacob. Comment on peut être mieux entouré, là, encore une fois?
Encore une fois, grâce à José, qui réussit à inviter des gens comme ça. Alors, il y a des gens qui demandent encore. Là, j'étais sur un tournage d'un long métrage. On m'a encore dit, il n'y a pas moyen de venir bosser sur Marlowe. Ah, ça, c'est José qui décide. Hein, mais ouais, souvent, en tout cas, moi, ça fait quand même un bout de temps qu'on en fait. Je crois qu'on en a fait une cinquantaine de Marlowe. Je ne sais même pas si on en a pensé plus. Enfin, en tout cas, à chaque fois, il n'y a jamais eu de problème avec les interprètes. En tout cas, de mon côté, moi, j'ai jamais ressenti d'ennui ou d'agacement de quoi que ce soit. À chaque fois, c'est un bonheur avec tous les artistes qui viennent, tous les interprètes, qui soient connus du grand public ou pas. C'est vraiment la magie que réussit à faire José.
Alors, il est vrai qu'on disait avec José, justement, lundi dernier, Corinne, moi, je lui disais, mais est-ce que des fois, Corinne, elle improvise? Est-ce que, parce qu'il y a tellement des fois des répliques qui font tellement mouche, etc. Alors, elle dit, non, elle improvise pas. C'est extrêmement écrit, mais par contre, elle participe aussi à l'écriture et c'est ça qui crée, justement, cette patte Corinne Mazirou qu'on retrouve chez Marlowe.
Ben oui, en fait, moi, quand je reçois les textes, je les mets en bouche, mais ça, je le fais sur tous les films auxquels je participe, et sur Marlowe en particulier, où je réécris mes dialogues en tenant compte aussi de le but étant évidemment de pas foutre les partenaires dans la merde. Donc voilà, je réécris des trucs, soit par rapport à des blagues qui me viennent sur le moment, ou par rapport à l'actualité, ou par rapport au sujet de l'épisode, ou voilà, il y a ça que je réécris jusqu'au dernier moment. Mais jour à jour, on appelle ça, mes scénars, ils sont remplis de, parfois je barre, je rajoute, j'enlève, je remets, et puis aussi, parfois, il peut y avoir de l'impro. Si j'arrive sur le plateau et que il y a un nouveau décor ou il y a une situation que j'avais pas imaginée parce que ce qui est écrit n'est jamais ce qu'on joue, là oui, je peux partir en impro et s'il y a des partenaires qui se prêtent au jeu, là on y va, quoi.
C'est assez sur le gâteau.
De tout ça.
Oui, c'est assez sur le gâteau dans ce genre de cas.
Absolument.
Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous rêvez de jouer là, qui sont pas venus encore dans Marlowe, que vous aimeriez inviter sur la série?
Alors moi, j'invite pas parce que jamais je me permettrais de dire à un ou une réal d'imposer quelqu'un, ou parce que ça c'est trop compliqué d'imposer un interprète ou une interprète à des réals, parce que c'est moi c'est mon point de vue. Je trouve que c'est trop trop intime ce qui se passe, intime au sens professionnel du terme.
Hein. Ouais.
Faut que la sauce prenne, donc moi je trouve que tu peux pas imposer quelqu'un comme ça. Il faut que ça vienne des deux personnes concernées, qu'il y ait une envie des deux côtés, sinon c'est ça pue du cul, quoi. Et puis voilà, après je suis open à plein de trucs. Moi ce que j'aime, c'est d'être surprise. Alors il y a eu tellement de cadeaux de la part de José, des gens avec qui j'aurais jamais pensé travailler, ouais. Dont Émilie. Il y en a eu tellement, je sais pas, Marielle, enfin plein de gens,
ouais, c'est etc. clair. C'est le plus grand défilé de stars dans Capitaine Marlowe, c'est le plus grand défilé de stars. Hein.
Mais ouais, grâce à José, et ça c'est super. Mais il y en a aussi qui sont pas connus du grand public, qui donnent le change aussi, qui sont super. Donc après travailler, moi j'aime bien être surprise, donc je suis ouverte à plein de trucs, que ce soit des gens qui soient comédiens de métier ou pas d'ailleurs. Parce que ça aussi, ça peut être très très chouette, et ça arrive d'ailleurs parfois dans Marlowe d'avoir des guests qui viennent faire un petit coucou comme ça, qui sont musiciens, chanteurs ou autres. Et puis ça, c'est chouette aussi parce que ça donne une autre couleur que j'aime beaucoup.
Les projets, Corinne, est-ce qu'il y a des projets cinéma aussi? Je sais que il y a une grande affection pour Louis-Julien Petit, qui a été celui qui vous a fait découvrir à la France entière quasiment, et avec lequel vous avez fait beaucoup de films pour le coup déjà aussi, et souvent des films engagés en plus, c'est ça qui est quand même super intéressant. Mais est-ce que vous avez d'autres projets dans ce sens, peut-être dans les mois qui viennent?
En septembre, j'en refais un autre avec Louis-Julien qui va parler d'un couple s'inspiré d'une histoire très proche de lui, on va dire ça comme ça, d'un couple d'hommes mariés qui décident d'avoir un enfant, qui ont envie d'avoir un enfant et qui vont réussir à avoir une petite fille en faisant appel à une mère porteuse. Et voilà, donc ça raconte un peu toutes les galères qu'ils rencontrent, toutes les oppositions qu'il peut y avoir là-dessus, tout ce qui... le prix que ça coûte d'aller jusqu'au bout de ses idées, par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport à la morale entre guillemets des uns et des autres et des unes et des autres, et ce combat de ces deux mecs qui s'aiment et qui vont réussir à faire une famille absolument géniale. Donc ça, on va le tourner en septembre. Je vais tourner aussi un docu-fiction avec Gilles Balbastre, un truc qui s'appelait Ceux qui tiennent la laisse, qui parle de sociologie, d'anticapitalisme, etc. Ça, on va le tourner là, donc d'ici 15 jours, on démarre.
Ouais.
Et puis,
il y a une grosse surprise quand même aussi, Corinne.
Laquelle?
Le premier film de la réalisatrice Corinne Maziero, quand même, bientôt.
Ah, le premier téléfilm. Téléfilm. Eh oui.
Ça va arriver bientôt.
Je sais pas quand est-ce qu'il va être diffusé, mais là il est prêt à sortir, et d'ailleurs on va le présenter au festival du film de demain à Vierzon.
Ouais.
Créé par Louis Julien et son mari, on est super contents, c'est avec Romane Bouringer, Aïssa Maïga.
Qu'on recevra d'ailleurs pour la diffusion, Aïssa.
Ouais, super actrice. Les deux là, c'était les deux actrices principales, c'était du bonheur, et puis beaucoup d'interprètes qui sont pas du tout connus du grand public, à part donc Océan et Philippe Duquesne qui sont quand même assez connus, et puis des tas de gens qui sont venus comme ça. Moi j'ai pris un gros panard là avec l'équipe qui m'entourait, parce que moi j'y connaissais rien du tout au niveau de la réalisation, donc j'étais entouré d'une équipe qui m'a aidé à tous les niveaux, son, photo, préparation, montage, etc. C'était une très très grande aventure que j'ai adoré.
Hâte de recommencer.
J'aimerais beaucoup. À fond les ballons. C'est pas comparable avec le métier d'interprète, mais c'est complémentaire, on va dire. Et vraiment gros panard, quoi. Donc là, je suis en train d'essayer de monter un nouveau projet. Et puis voilà. Alors j'espère que ça donne un truc très particulier, très très particulier. Qui est, encore une fois, c'est pas un film cinéma, donc il n'y a pas la liberté qu'on peut avoir parfois, qu'on peut s'autoriser sur un long métrage ou un court métrage, voilà. Mais dans le cadre qui est assez délimité des téléfilms, on a essayé de faire un truc tous ensemble, puis ça donne un truc très très spé. Avec, j'ai pu réaliser mon rêve de petite fille, de faire jouer Dave dont j'étais amoureuse quand j'étais petite.
Oh, c'est énorme.
Et qui a accepté de faire un petit caméo, un petit coucou dans le film. Et ça a été une grande expérience aussi, on s'est bien marré. il a été génial, il a joué le jeu, c'était vraiment chouette. Bon. Donc voilà.
Eh ben, on s'en reparle très vite, en tout cas, et on se rappelle juste avant la diffusion parce que ouais, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus justement sur cette première expérience. Et puis Aïssa Maïga sera de toute façon notre invitée aussi pour la diffusion.
Ah, c'est chouette.
Donc voilà, on va s'en faire l'écho, Corinne. On sera là.
Merci beaucoup les gars, les filles et les non-binaires.
Allez, Capitaine Marlowe, c'est nouvel épisode inédit, ça s'appelle L'Ami Français, c'est donc vendredi et c'est à 21h05 sur France 2, on ne rate pas évidemment, c'est notre petite Madeleine de Proust en ce moment le vendredi soir, alors on continue. Merci beaucoup, à bientôt Corinne.
Merci, bye bye, salut à tous.
Qui l'a laissé passer ?
Comme toi, la mijole, là, Capitaine Marlowe.
C'est moi qui vous fais peur, monsieur Vomito ?
Qu'est-ce que vous voulez, capitaine ?
Perquisition culinaire.
Moi, je cherche un traître.
Ne lâchez jamais le morceau, vous.
Bah, surtout quand il est gros comme ça.
Chacun son style, capitaine.
Capitaine Marlowe enquête à sa manière. Vendredi soir à 21h10 sur France 2 et déjà sur la plateforme France.tv.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. A tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Je veux bien les larmes et la douleur, je veux bien les doutes, je veux bien que vivre encore me coûte. Je veux bien la laideur et l'oubli, je veux bien trembler, je veux bien ne plus pouvoir chanter. Il me reste tant de choses à dire, tant de gestes pour te faire sourire. Je veux t'aimer encore, je veux t'aimer encore. J'ai la tente de la mort, je veux t'aimer encore. Je veux donner bien plus que ce que j'ai reçu, que le diable m'ignore. Je veux t'aimer encore. Je veux voir les enfants, tes enfants, dans des courses folles, et leur parler du bon temps en espagnol. Oh bon Dieu, je ne demande rien, rien qu'un peu de temps dans tes mains. Je veux t'aimer encore, je veux t'aimer encore. J'ai la tente de la mort, je veux t'aimer encore. Je veux donner bien plus que ce que j'ai reçu, que le diable m'ignore. Je veux t'aimer encore. Et je reste là, oui je reste là. Je me tiens au mien, mes mains ne tremblent pas. Et je reste là, oui, je reste là pour toi. Je veux t'aimer encore, je veux t'aimer encore. Qu'elle attend de la mort, je veux t'aimer encore. Je veux donner bien plus que ce que j'ai reçu, que le diable m'ignore. Je veux t'aimer encore. Que j'ai reçu, que le diable m'ignore. Je veux t'aimer encore, et je reste là pour toi.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, il était notre invité il y a 2 semaines. Hein, on donnait tout pour cette demi-finale de The Voice. On va faire un retour puisqu'il a même été en finale. C'est le finaliste de The Voice 2025. Michael Gallo est de retour dans Chut, on écoute la télé. Bonjour Michael.
Bonjour.
Ah, écoute, c'était il y a une petite dizaine de jours là, à peine. C'était dingue cette finale, dis donc.
Oh là là, franchement, ça a été un moment assez intense. Autant émotionnellement que professionnellement. Bah déjà on était j'allais dire tous les 6, même s'il y avait 4 finalistes, on était 6 en tout. Tellement une belle entente et puis en fait on a tous kiffé notre notre finale, et pour nous, il n'y avait pas de, enfin, il fallait un gagnant forcément, mais il n'y avait pas de gagnant. On avait déjà nous gagné tellement.
Ben c'est ça qui est important, c'est justement cet esprit d'équipe ensemble. Il faut dire qu'il y avait de la concurrence quand même, hein, parce que les candidats qui étaient en face, je pense à Ilcello, ça envoyait vraiment du lourd, ça a été une finale vraiment haut de gamme, hein, on peut dire.
Oui, effectivement. Après, c'est sûr que Ilcello, ils ont quelque chose de magnifique, c'est-à-dire qu'ils ont chacun eux-mêmes des belles voix, et elles se sont tellement bien assemblées que c'était une évidence. On a vraiment senti en tout cas l'engouement du public pour chacun d'entre nous, mais un peu plus vers Ilcello parce que ça reste inédit et exceptionnel.
Et puis c'était le retour de Florent Pagny, je suis sûr que tous les fans ont voté ardemment. En tout cas, Patricia Cass, toi, t'as pas lâché, hein, du début à la fin, je crois qu'on peut dire. Et vous avez fait un duo qui était magnifique tous les deux.
Bah, merci beaucoup déjà. Et oui, Patricia Cass est toujours présente. C'est une personne qui, du coup, est très très humaine dans le sens où il y avait bienveillance, franchise. Moi, j'ai découvert quelqu'un de très simple, malgré que ça soit une icône. Et ça, ça va être très agréable. C'est un bel exemple dans le métier.
Et puis dis donc, t'as eu l'occasion, du coup, de chanter ton premier titre.
Incroyable.
C'est celui qui a mis la patate, hein, qui a vraiment mis l'ambiance, hein, dans la soirée. Hein.
Ben oui, mais parce qu'en même temps, les gens, maintenant je reçois des messages, c'est « mais ça te ressemble tellement ». Mais en même temps, j'ai eu la chance de coécrire à cette composition. J'ai eu une équipe qui a mis des mots, qui a mis une musique, mais moi, j'ai donné ma direction artistique et avec bien sûr leurs suggestions. Et en fait, ce titre-là, je l'aime. Je l'aime et j'aime l'entendre. Je l'écoute, hein, même. C'est pas pour m'écouter moi, mais c'est que ça donne une envolée, une pêche, et j'espère de tout cœur que ça le donnera aussi pour le public, parce que c'est vraiment c'est un titre pour moi qui fait du bien à l'âme.
Et si vous l'avez pas entendu, vous allez l'entendre dans un instant, hein, justement, puisqu'on va vous le faire écouter, ce premier titre de Michael Gallo intitulé Briller. Quels sont pour toi les grands moments, les grands souvenirs de cette finale?
Le duo avec Patricia Cass, le moment avec Matt Pokora, en fait chaque passage scénique, et en même temps on était sur la fin, et donc du coup avec les équipes, les stylistes, les coordinatrices, la production, les maquilleuses, tout ça, on était un peu dans une nostalgie, donc on profitait de ces moments, on était cachés quelque part, mais on était quasiment tous ensemble, et c'était fou, quoi, humainement c'était fou. Puis voilà, les coachs étaient assez disponibles, ils venaient nous voir, enfin je veux dire, comme s'il y avait des barrières qui s'étaient un peu baisser, et c'est devenu une famille, quoi.
Je suis sûr que tu vas retenir plein de belles choses, en tout cas, de cette aventure The Voice. Est-ce que tu referais exactement tout pareil si tu devais revenir en arrière, ou est-ce qu'il y a quelques petites choses que tu changerais?
Non, parce que en fait, ça m'a tellement appris très personnellement des choses, vraiment des choses sur ma capacité à être un vrai chanteur. C'est bête à dire, mais du coup, ça m'a vraiment validé sur ça. Rencontrer le public, la bienveillance des gens, là tu vois, je sors dehors, des gens me reconnaissent, on prend des photos, on me dit bravo, donc voilà, c'est incroyable.
As-tu des déclarations d'amour?
Non, pas encore.
Pas encore.
Bah si, d'amour, on va dire d'amour artistique.
Bah oui, aussi.
Oui, non, si, il y a beaucoup, franchement, j'ai senti que, en tout cas sur La Rochelle, il y a eu un engouement. Et quand je croise le public, ils me disent « Ah non, mais on était à fond, hein, parce que t'es Rochelais, et puis tu chantes bien. Hein. »
Et t'as eu d'autres artistes, justement? Ça t'a ému de voir peut-être des messages d'artistes commenter, t'admirer, peut-être? Des gens que t'admires et que tu soupçonnais pas qu'ils te regardaient?
Non, j'ai pas eu de messages comme ça, mais d'avoir été repartagé par Matt Pokora, par exemple, ça c'est
déjà la classe. Ouais, ça c'est déjà la classe.
Ouais, c'est très très classe.
Exactement. Bon, Michael, on va écouter Briller.
Ah bah avec plaisir.
Écoute, et puis merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. T'es notre gagnant à nous. Voilà, je crois qu'on peut le dire.
Ah, c'est gentil. Et tu merci Alain.
Et puis on se dit à très vite.
Ah bah avec plaisir.
Allez, à très vite pour de nouvelles aventures. Michael Gallo, ça s'appelle Briller. C'est maintenant dans Chute, on écoute la télé. On l'écoute. Merci Michael, à très vite.
Je vais tout donner, tu pourras plus m'arrêter. Je vais tout donner, tu sais, j'arrêterai jamais. J'ai des rêves un peu trop grands. Ce sera jamais le bon moment. Tu devrais faire ce qu'on t'a dit. J'ai plus le temps de regarder ma vie me passer devant. J'ai plus envie de me cacher dans un rôle qu'on m'a donné.
plus être un autre, être un autre.
Dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. On recevra Nicole Ferroni pour le grand retour de Piquante. Jeanne Bourneau également, qui joue Hélène dans la série Le Négociateur aux côtés de François-Xavier Demaison, sera notre invité, plus plein d'autres surprises.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.